Que le nom de Jésus soit béni. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Que la paix et la grâce de notre Dieu ce matin nous soient données en Jésus-Christ, de la part de notre Dieu, et que sa grâce se répande sous chacune de nos vies comme une fraîche rosée, afin que nos âmes étant rafraîchies par la présence et par l'action du Saint-Esprit, eh bien, notre première préoccupation ce matin soit pour louer notre Dieu. Soit pour le servir, soit pour le glorifier, soit pour l'élever, soit de célébrer par nos louanges sa majesté, sa grandeur et son autorité. De ce qu'un jour il a eu pitié et compassion de nous, c'est lui qui dans sa souveraineté nous a attirés des ténèbres à son admirable lumière. C'est lui qui a bien voulu, d'après le dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même, mais permettre que nous entrions dans ce plan béni de salut pour devenir ses enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens importants, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est parce que la grâce de Dieu a été notre partage. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 mai 2021. C'est ça, hein? Je ne me suis pas trompé. Et comme je disais au bien-aimé hier, pendant que nous chantions les cantiques, le Saint-Esprit, il n'a pas fait ce matin, je vous ai bien dit hier, hein? Donc c'était hier, au moment du service du culte, hier matin à 9h, pendant qu'on chantait les cantiques, le Saint-Esprit m'interrogeait. Dieu parlait à mon cœur. Ça vous arrive que Dieu parle à votre cœur? Ah oui, Dieu nous parle comme ses enfants. Oh, il ne me parle pas tout le temps. C'est pas dit que Dieu va constamment nous parler. Non, il nous parle quand il a besoin de nous parler, soit pour nous exhorter, nous fortifier, nous soutenir, nous encourager. Enfin, il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Il est souverain sur nos vies. Mais alors, pour revenir à ce que je vous disais, pendant que les bien-aimés chantaient les cantiques, le Seigneur parle à mon cœur. Il me dit, Claude, qu'est-ce ce jour pour toi? Alors, je réponds, à l'intérieur, hein. C'est pas un dialogue audible, non, à l'intérieur. Alors, je dis, Seigneur, ce jour pour moi, eh bien, on est le 29 mai 2021, Non, mais je vous ai dit hier, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ne m'interrompez pas, je vous ai dit hier. Hier, au culte de 9h. Alors, suivez-moi un peu, s'il vous plaît. Je peux y aller? Voilà. Donc, je récapitule depuis le commencement. Hier, on était le 29. Au moment du culte, le Seigneur parle à mon cœur. Claude, qu'est-ce ce jour pour toi? Alors, je dis, Seigneur, ce jour, on est le 29 juin. Seigneur, c'est pas mon anniversaire. En 29 mai, c'est votre faute, c'est vous qui m'interrompez à chaque fois. Bon, bref, je dis le 29 mai, alors, c'était hier, voilà. Merci Mirella, tu me soutiens, voilà, moi j'ai un appui. Voilà, alors je disais, Seigneur, qu'est-ce ce jour pour moi? Bien ce jour, Seigneur, c'est le 29 mai. Je ne suis pas trompé, c'est pas mon anniversaire, puisque je ne suis pas né le 29 mai. Peut-être est-ce l'anniversaire de quelqu'un? Et puis le Saint-Esprit me dit, mais non, ce jour... C'est un jour de grâce. Ah, mais oui, c'est un jour de grâce. Cela veut dire que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, beaucoup ont quitté la terre. Mais c'est un jour de grâce pour toi. Parce que la grâce de Dieu t'a été renouvelée. Dieu a permis que tes yeux voient le jour. Et en permettant que tes yeux voient le jour, il a bien voulu renouveler à ton égard. Après avoir renouvelé en toi son souffle de vie, alors, il a bien voulu renouveler à ton égard ses bontés, ses compassions qui ne sont pas épuisées. Alors, mais bien aimé, vous savez, quand le Seigneur nous parle, c'est pas pour nous faire de grandes déclarations, mais ce qu'il nous dit est d'une logique tellement spirituelle, implacable. Vous savez ce que ça fait? Ça nous rend petits. Et ça nous ferme la bouche quant à toute, réflexion que nous aurions et toute confession que nous pourrions avoir de manière qui serait peut-être non conforme au plan et à la bonté et l'amour, la grâce de Dieu à notre égard. Alors aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, nous sommes le 31 mai. Je sais, vous allez dire, pasteur, vous avez besoin de congé. Vous n'auriez pas tort. Mais pour l'instant, c'est pas encore le temps. Alors nous sommes le 30 mai 2021. Alors aujourd'hui, ce matin, c'est un jour de grâce. Un jour de grâce et nous ne pouvons que bénir Dieu de ce qu'il a permis qu'il en soit ainsi pour nous. La preuve, c'est un jour de grâce, il a permis que nous soyons présents ce matin. Et un jour de grâce, il a mis dans nos cœurs les bonnes dispositions pour pouvoir lui rendre ce culte. Et quand je dis rendre ce culte, vous avez bien remarqué, j'ai pas dit pour venir au culte, hein. Parce que dans la réalité, on ne vient pas au culte, mais on vient rendre le culte à Dieu. Et dans l'expression rendre le culte, ça nous place tout de suite sur le terrain spirituel qui nous amène à considérer que nous sommes à l'égard de Dieu ses débiteurs. Nous lui devons le culte. Amen. Et si nous lui devons le culte, c'est parce que lui a fait de nous de vrais adorateurs. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui a fait de nous de vrais adorateurs. Rassurez-vous, je ne vais pas revenir avec vous sur les critères définissant le vrai adorateur que je suis devenu. On en a déjà partagé ça il y a déjà quelque temps. Et je suis persuadé que le Saint-Esprit a su mettre dans nos cœurs, eh bien, ces réalités pour que nous puissions, en étant conscients, eh bien, rendre le culte de manière qui soit autant agréable à notre Dieu et raisonnable pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta... Frères et sœurs en Christ, excusez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous ressentez la présence de Jésus? Parce que depuis tout à l'heure, quand je suis assis là, la présence du Seigneur se fait sentir à mon cœur. Et je ne sais pas ce que le Seigneur va faire ce matin, mais je sais qu'il va secourir, qu'il va bénir. Je sais qu'il va relever, qu'il va fortifier, qu'il va encourager. Je le sais parce que le Saint-Esprit me le fait sentir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le psaume 46 nous avait amené à considérer ce qui ressemble fortement autant à une déclaration, mais aussi à une affirmation, et puis en même temps à un témoignage rendu, et ce témoignage rendu par les fils de Corée que Dieu a permis que soit laissé par écrit cette déclaration, ça constituerait aussi le résultat d'expériences vécues, n'est-ce pas? Puisque dans le psaume 46, au verset 2, la déclaration est celle-ci, puisque les premiers écrits montrent ceci, au chef des chants, cela veut dire que les fils de Corée avaient rédigé le psaume, mais les psaumes étaient rédigés comme des écrits, et c'était donné au chef de chœur qui les mettait en musique. Et puis nous voyons qu'il est écrit des fils de Corée, donc l'origine les fils de Corée, remis au chef des chantres, et puis nous voyons qu'il est mentionné sur Alamot. Alamot, cela veut dire littéralement soprano, pour déterminer un petit peu, eh bien, l'ordre dans la tranche où ce cantique sera interprété et chanté. Cantique. Voilà la déclaration. Dieu est pour nous, dites avec moi, un refuge. Un refuge, mais aussi et un appui. Et puis après un appui, un secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, est-ce qu'à ça vous dites amen ce matin? Je vous ai dit, c'est une déclaration, une affirmation, et puis quelque chose qui ressort d'un témoignage vécu. Car on ne peut pas faire une telle déclaration si on ne l'a pas expérimenté. Et vous comme moi, frères et sœurs en Christ, depuis le jour où la grâce de Dieu nous a été accordée d'entrer dans ce plan de salut, et mais je crois que, étant habité par le Saint-Esprit, avec les fils de Corée, dans ce que nous venons de lire, beaucoup d'entre nous pourraient ce matin se lever, crier, annoncer, déclarer et affirmer la même chose. Où sont ceux qui peuvent le faire ce matin? Levez la main. Bon, disons nous tous quoi. Nous tous. Tous, on pourrait le déclarer ce matin. Et nous pourrions le déclarer pour l'avoir expérimenté. Soit vous, soit moi. Et tout à l'heure, j'étais en train de prendre mon crayon et j'écrivais, vous allez tout savoir, hein, on est la grande famille de Dieu, on n'est pas là pour faire des manières. N'est-ce pas? Alors j'écrivais, Bruno, tu ne te moques pas de moi, Bruno.
Alors j'écrivais.
Regardez-moi, j'écrivais.
2021. Et je mettais en dessous 1983. Je mettais le trait. Oui, c'est une soustraction. Oui, bien sûr, c'est une soustraction. Mais laissez-moi compter, s'il vous plaît. Pourquoi voulez-vous compter à ma place? Enfin, 1938. Et ça fait 38 ans. Alors, je disais, c'est 38 ans que je te connais. 38 ans de vie, d'expérience, mais dans la réalité, je puis dire, avec Jésus-Christ, 38 ans de bonheur. Ah oui. Ben oui, quand je lis cela, parce que la réflexion que j'ai là, c'est un rapport avec ce que je lis, hein. Dieu a toujours été pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse, qu'est-ce que c'est, pasteur Gentil? Mais la détresse, c'est le moment où, confronté à une ou plusieurs situations qui durent, qui perdurent, et devant ce qui ressemblerait fortement à une absence de solution, eh bien, progressivement, on est installé dans quelque chose qui nous met devant la réalité de nos incapacités et tout ce que cela peut engendrer et toutes les conséquences qui peuvent en découler. N'est-ce pas? Et dans la vie chrétienne, il y a des moments où un enfant de Dieu peut connaître la détresse. Ce n'est pas une faute. Parce qu'on peut être confronté à une série de situations qui nous surviennent sans que nous les ayons cherchées. Ou peut-être le résultat de certains choix de vie que nous aurions faits, qui malheureusement nous ont conduits à des situations où malheureusement, mais certaines choses nous ont échappé, et puis progressivement, les choses ont dégénéré, et on se retrouve maintenant dans des situations que nous aurions tellement aimé éviter, ou que nous aurions pu éviter si, au préalable, nous avions consulté l'Éternel, et le laisser nous diriger dans la bonne direction, selon son plan, selon sa volonté, et selon son dessein. Mais même, quelquefois, quand nous avons fait des choix, excusez-moi du mot que je vais employer, qui ne sont pas judicieux, ça c'est humain ça, disons qu'ils ne sont pas conformes au plan de Dieu, ce sera mieux. Mais oui, alors malgré tout, le Seigneur notre Dieu, dans sa grâce, vient à notre secours. Oh, quelquefois les erreurs que nous commettons sont tellement accompagné de conséquences fâcheuses pour nous, que il faut toute la grâce de Dieu pour tenir le coup. Et ce matin, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont peut-être tributaires de leur choix, certains choix qu'ils auraient fait et dont les conséquences non seulement ont commencé déjà depuis un petit moment, mais jusqu'à aujourd'hui, les conséquences continuent et on les subit. D'où le mot la détresse. Mais, béni soit Dieu, nous l'avons lu. Dieu est pour nous ce matin un refuge. Et fort souvent dans l'expression biblique, quand je lis le mot refuge, ce n'est pas un endroit qui est à créer ou que moi je vais créer. Car fort souvent, puisque la suite du texte montre que les fils de Corée disent: c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Fort souvent, dans le refuge, c'est un endroit qui est déjà créé et où un voyageur fatigué, confronté à une tempête de sable ou à une tempérie ou à une situation difficile, peut se retrouver pour se mettre, le temps que la calamité passe, à l'abri. Donc, c'est pas un endroit qu'il va créer quand survient la calamité, mais c'est un endroit qui est déjà créé. Vous me suivez toujours, frères et sœurs? Alors, Dieu voudrait nous rappeler ce matin
que pour nous comme son enfant. Même si Dieu, lui, on ne le voit pas, parce que Dieu est esprit. Mais nous envoyons la personne de Jésus-Christ, celui qui est notre refuge ce matin. Pour toi, mon frère, ma sœur, il y a un refuge. Et ce refuge, je lui donne un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Sa présence, sa puissance, sa parole, ce que j'ai défini comme étant la règle des trois P. Qui ne nous fait jamais défaut, et ce, quelle que soit la situation auquel nous sommes confrontés. Voilà, écoutez. Il y a 10 lépreux qui voient arriver Jésus au loin, c'est un texte de l'évangile de Luc, et ils s'adressent à Jésus, « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et le texte de l'Écriture nous dit, « Et il arriva que pendant qu'ils y allaient, il fut guéri. » Alléluia. Vous remarquerez que Jésus n'a pas imposé les mains, mais sa parole a été donnée, et le Saint-Esprit dans la parole de Jésus a fait le travail. Et puis la Bible nous dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, et à haute voix, il louait Dieu. Qu'est-ce que tu dis, je follow? Pardon? Ah oui, mais attends, mon frère follow, ne va pas trop vite. L'un de se voyant guéri, revint sur ses pas, et louait Dieu avec joie. Alors Jésus va parler, il va dire, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comment se fait-il que ce soit celui-là seul qui revient se prosterner pour donner gloire à Dieu? C'était un Samaritain. Alors, dans la manière de fonctionner de ce Samaritain, qu'a-t-il fait? Il a mis entre lui et Jésus, premièrement, il a mis la présence de Jésus. Il y a pu lui parler. Deuxièmement, il a mis la parole de Jésus, allez vous montrer. Et troisièmement, il a mis la puissance de Jésus, l'accomplissement de sa guérison. Nous sommes mis sous la règle des trois P, n'est-ce pas? Frères et sœurs en Christ, Jésus ce matin au milieu de nous, eh bien, il est le refuge que nous avons besoin, qui est mis à notre disposition, et que dans tous les moments difficiles, tous les combats, toutes les situations, toutes les détresses, eh bien, on peut se réfugier en lui, et là, c'est le lieu secret de la sécurité. Que Dieu soit béni et glorifié. Regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, dans la même tranche de pensée. Eh bien, comment le psaume 142 va nous exposer la même pensée, mais avec une petite variante qu'il est important de considérer pour tirer le paramètre spirituel et la leçon qui s'y attache. Le psaume 142, c'est un autre psalmiste. En l'occurrence, il s'appelle David. La situation, il est dans une caverne. Dans la caverne, il est poursuivi par un ennemi sanguinaire. L'ennemi sanguinaire s'appelle Saül. Saül que Dieu a rejeté, et David que Dieu a choisi pour le succéder sur le trône d'Israël, mais au lieu de lui donner une main d'association, comme l'avait fait Jonathan, ayant reconnu que Dieu avait choisi, alors Saül s'est mis à le combattre. Je sais, vous me direz, parce que c'est gentil, parce qu'il était animé de mauvais esprits. Bon, quoi qu'il en soit, la réalité, elle est là. David est dans la caverne, et voici ce qui est écrit. De ma voix, psaume 142, verset 2. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Et je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma joie. Ah. Je peux aussi lui raconter ma joie, hein. Mais là, c'est peut-être pas du tout la joie, hein, c'est le cas de le dire, hein, parce que sa vie ne tenait qu'à un fil. Je lui raconte ma détresse. Et
Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Ils m'ont tendu un piège. Et puis, regardez comment il s'exprime dans le verset 5. Et suivez avec moi cette déclaration qu'il fait. Il y a, c'est à Dieu qui s'adresse, hein. Jette les yeux à droite et regarde. Et qu'est-ce qu'il dit après? Personne ne me reconnaît. Et en disant personne ne me reconnaît, qu'est-ce qu'il rajoute? Tout refuge est perdu pour moi. La raison? Nul ne prend souci de mon âme. Frères et sœurs, en Christ, ce que nous venons de lire nous montre que dans le moment où il est dans la caverne, poursuivi par un ennemi sanguinaire, et tout ce que je viens de vous dire, dans la caverne, eh bien, cette déclaration, jette les yeux à droite et à gauche, et regarde, nul ne prend souci de mon âme, personne ne me reconnaît. Ah! Et quand il dit personne ne me reconnaît, qu'est-ce que cela nous montre? Que l'espace d'un moment, il a arrêté son regard sur les hommes. Ben oui. Quand je dis personne ne me reconnaît, ça veut dire que j'ai arrêté mon regard sur les hommes. Mais oui. Quand tant qu'il a les yeux sur Dieu, il n'a pas cette confession-là. Mais quand il a le regard sur les hommes, personne ne me reconnaît. Et obligatoirement, la suite dans la déclaration, qui est une confession, tout refuge est perdu pour moi. C'est exactement ce qui se passe quand je détourne mes yeux de Dieu. Que je le fixe sur les hommes, cherchant un temps soit peu leur appui. Cherchant un temps soit peu du secours auprès d'eux. Cherchant un temps soit peu auprès d'eux, de l'aide de leur côté. Et Dieu a cette particularité, frères et sœurs en Christ, pour nous amener à ce qu'il veut, de permettre que tous les appuis humains se révèlent inefficaces. Et même s'ils sont là, eh bien Dieu s'arrange pour que je ne puisse pas en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'il veut que je détourne mes yeux des hommes, et la suite va nous montrer. La suite nous le montre, frères et sœurs en Christ. Il vient de déclarer, jette les yeux à droite, éternel, et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Alors, quand bien même quelqu'un pourrait prendre soin de ton âme, qu'est-ce qu'il peut faire pour ton âme? Il n'y a personne ici qui peut faire quelque chose pour mon âme. Et béni soit Dieu, heureusement. Car si quelqu'un pouvait faire quelque chose pour mon âme, il n'eût pas fallu que Jésus paye le prix de son rachat. Vous me suivez toujours, hein? Oui. Pourquoi? Parce que mon âme est propriété de Dieu. Mon âme est propriété de Jésus-Christ qui l'a racheté, qui l'a sauvé. Voilà pourquoi maintenant je détourne pour mon âme mes yeux des hommes. Je fixe mes yeux sur Jésus-Christ. Et quand le psalmiste fait cela dans la suite du récit, verset 6, écoute, Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, le langage a changé. C'est vrai, au départ, il a crié à Dieu. Mais il dit à Dieu, regarde, Éternel, à droite et à gauche. Et puis il ose dire à Dieu, nul ne prend souci de mon âme. Mais heureusement qu'une personne ne prend souci de ton âme. Plus les hommes méprisent ton âme, plus ils se confient en Dieu. Écoute mon âme, retourne à ton repos. L'Éternel t'a fait du bien. Trouve ton refuge en Jésus-Christ et demeure-y. Vous allez voir tout à l'heure, dans un autre psaume, la déclaration du psalmiste, toujours les leçons qu'il put tirer du refuge. Alléluia. Eh bien, cela se trouve, frères et sœurs en Christ. Tiens, le psaume 57, au verset 2. Le psaume 57, verset 2, va nous amener à considérer une autre expérience, toujours du psalmiste. Et c'est toujours, frères et sœurs en Christ, la même expérience. Hein? C'est ce qui découle de la même expérience. Le psaume 57, c'est exactement un hymne de David, lorsqu'il se réfugia où? Dans la caverne. Et puis il est rajouté, poursuivi par Saül. Verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi, car en toi, dites avec moi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Et ça, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Donc je vous ai dit en entrée en matière, que le refuge est le lieu secret de la sécurité où je peux trouver véritablement, eh bien, le repos et où je peux maintenant attendre l'intervention de Dieu. Car la lecture du début nous a montré, Dieu est pour nous un refuge, après un appui et un secours. Cela veut dire que quand je suis dans le refuge, j'ai l'appui de Dieu. Et dans le refuge avec l'appui de Dieu, j'attends. Et quand j'attends le secours dans le refuge, Dieu étant mon appui, je suis sûr qu'il va intervenir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va intervenir. Amen. Parce que le refuge ce matin pour moi, je l'ai en Jésus-Christ. Bien. Ça commence à chauffer. On y va. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Et puis il prend soin de dire, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Ou je peux remplacer tandis que par malgré le fait que. Malgré le fait que mon persécuteur se répand en outrage. Parce que lorsque Saül poursuivait, la poursuite était accompagnée de déclarations, de menaces de tuer, de détruire. David entendait cela dans le refuge. Et nous comprenons pourquoi il dit à Dieu, dans le psaume précédent, regarde, nul ne pense aussi de mon âme. Il ose rajouter, tout refuge est perdu pour moi. Mais quand je crie à Dieu, je dis, tu es mon refuge. Et quand Dieu entend ça, il comprend que j'ai détourné mon regard des hommes, de papa, de maman, de frère, de sœur, que je m'attends à lui et que je suis placé dans sa présence dans la même position qu'était Jacob au Gedjabok lorsque cet être est venu lutter avec lui et il a dit, je ne te quitterai pas tant que tu ne m'as pas béni. Dieu aime les lutteurs. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Violence dans la prière. Vous savez, la violence dans la prière me donne à proscrire tout relâchement. Dieu veut que je sois déterminé dans ce que j'ai entrepris. Dieu veut que quand je prenne une résolution, je la maintiens. Que je ne laisse pas les circonstances m'amener à me relâcher dans cet engagement que j'ai pris envers mon Dieu. Je le supplie, je suis à ses pieds, je combats, je lutte. Je lutte d'abord avec ma vieille nature. Et je lutte avec moi-même. Mais je ne relâche pas. Je l'ai dit, je ne lâche pas le morceau. parce que Dieu veut que je sois déterminé. Jésus, lui, mon Seigneur, il a été déterminé du commencement à la fin. Lorsqu'il était confronté à l'hostilité, à l'opposition, à tout ce à quoi il a été confronté, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc, je crois chapitre 9, lorsque les temps arrivaient où Jésus devait rentrer dans la gloire du Père, je lis, Jésus prit la résolution de monter à Jérusalem. On avait déjà parlé à ses disciples, voici nous montons à Jérusalem, le Fils de Dieu va être arrêté, le Fils de l'homme va être arrêté, on va le battre des verges, eh bien il souffrira beaucoup, on crachera sur lui, on le mettra à mort. Mais 3 jours après, il ressuscitera. La Bible nous dit que lorsque Jésus a fait cette déclaration, mais il ne comprit pas ce que ses paroles voulaient dire. C'était tellement au milieu de leur esprit, mais Jésus n'a pas caché ce qu'il attendait. Et malgré tout, il prit la résolution de monter à Jérusalem. Parce qu'il savait qu'à Jérusalem était fixé, sur le mont Golgotha, le lieu d'un divin rendez-vous, où le moment était venu de livrer sa vie pour payer la rançon du rachat de nos âmes. Voilà pourquoi nos âmes, ce matin, sont sa propriété. Gloire à Dieu. On revient à notre texte. Donc, il a crié à Dieu. Nous avons lu, je crie au Dieu très haut qui agit en ma... Ah, il agit en ma faveur. Je crie au Dieu très haut qui agit en ma faveur. Et lorsque je lis le mot faveur mentionné ici, eh bien, je suis sur la lignée prophétique. Il me montre qu'en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, j'ai celui qui est le prince de la grâce de Dieu. C'est derrière ce mot faveur, il y a l'idée de la pensée, l'idée ou la pensée de grâce, faveur imméritée que Dieu, en vertu de son amour, m'accorde, nous accorde, t'accorde ce matin, comme son enfant, nous accorde comme son peuple, afin que nous puissions le servir et le glorifier. Et ce, dites avec moi, même si je passe par un moment de détresse, dans le refuge en Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ce que nous partageons ce matin, c'est pas quelque chose que vous entendez dans les écoles de théologie. Non. Dans les écoles de théologie, on va vous bassiner avec toutes sortes de textes bibliques pour vous enrichir de la connaissance. Mais quand Dieu nous parle, il nous parle des choses qui sont présentes, des choses qui sont réelles, auxquelles on peut être confronté là, ce matin, aujourd'hui, d'où j'ai besoin de recevoir le secours de mon Dieu de manière précise, de manière personnelle, et je crois que ce matin, au travers de sa parole, parce que Jésus ne balance pas des paroles simplement pour le fait de balancer des paroles, pour nous arroser, sinon nous parle dans des directions, parce qu'il connaît les cœurs. Alléluia. Je crie au Dieu très haut qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel et le salut. Malgré le fait que mon persécuteur se répand en outrage, eh bien Dieu manifestera sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions, dit-il. Donc, s'il mentionne le mot lion, cela veut dire que le lion, vous savez ce que c'est. C'est un prédateur, dites-le-moi, un prédateur. Et lorsque la proie est dans la gueule du lion, elle pèse pas loin. Bon, mais, regardez avec moi, verset 7. C'est le témoignage qu'il mentionne comme le vécu. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient causé une fosse devant moi. Résultat? Ah, parce que j'ai trouvé le refuge à mon Dieu. Ça veut dire qu'ils y sont tombés parce que Dieu a agi. Dieu a agi. Pourquoi il a agi? J'ai crié à lui. Quand? Dans la détresse. J'ai détourné mon regard des hommes. J'ai trouvé en lui le refuge. Alors, le verset 8, après avoir dit, ils y sont tombés, qu'est-ce qu'il dit? Lisez avec moi, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il déclare? Ah, mon cœur est affermi. Il le dit une fois. Mon cœur est affermi. Mais après, il dit, oh Dieu. Ah, il s'adresse à Dieu. Oh Dieu,
Il répète la même chose.
Mon cœur est affermi. Alors, qu'est-ce qu'il veut exprimer par là? N'est-ce pas? Ce qu'il a vécu dans le moment difficile et qui a permis que véritablement il en tire un profit personnel.
Ça veut dire qu'il est en train de dire à Dieu merci parce que dans l'épreuve, tu m'as fait grandir dans mon affermissement personnel. Et bien là, nous sommes sur le terrain, frères et sœurs en Christ, de ce que quand Dieu permet une situation difficile, douloureuse, délicate, même dans la détresse, Dieu peut utiliser cette situation-là pour mieux m'affermir. N'est-ce pas ce que je comprends ce matin?
Mais oui.
Alors, si je suis dans la détresse, si je passe par un moment difficile, si c'est le cas, je ne dois pas m'orgueiller, ni me rebeller, ni juger Dieu, ni Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te fais confiance. Parce que lui, au départ, comprenait pas. Un temps soit peu, il a détourné son regard de Dieu pour le fixer sur les hommes. Sa déclaration, tout refuge est perdu pour moi. Ailleurs, il dit, ce qui fait ma souffrance, il y a 6 questions qu'il pose. Et puis, à un moment donné, il dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Alors, comment tu peux dire la droite du Très-Haut n'est plus la même, alors que Hébreux 13:8 me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Que Dieu me dit, jusqu'à ta blanche vieillesse, Claude, je serai toujours le même. Mais ça, c'est quand je suis fatigué sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan psychique, sur le plan physique. Alors, je peux avoir une confession qui, malheureusement, eh bien, se retrouve sur le plan humain, à milieu de la réalité dans laquelle Dieu, lui, vit, et dans la réalité spirituelle dans laquelle il m'a introduit dans la communion avec lui. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, frères et sœurs en Christ, nous avons lu un texte, si je me trompe pas, de Jérémie 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant mon Dieu et mon droit passe inaperçu devant l'Éternel? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Dieu d'éternité, c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Et après, il ne se fatigue, ni ne se lasse. Les adolescents chancellent. Les jeunes gens, oui. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils sont comme la montagne de Sion, ils ne chancellent pas. Nous comprenons cette confession, pourquoi dis-tu Israël et pourquoi dis-tu Jacob? C'est ce que Dieu a entendu, mais dans un moment de fatigue. Lorsque nous sommes fatigués spirituellement, moralement, physiquement et psychiquement, eh bien, nous perdons de vue des réalités spirituelles qui sont là, réelles pourtant, mais que dans notre esprit, nous avons peut-être laissé la spéculation s'installer. Et quand la spéculation s'installe, la réflexion arrive. Et quand la réflexion arrive, alors je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Le Seigneur a-t-il oublié d'avoir miséricorde? Est-ce qu'il a retiré dans sa colère sa grâce? Non. Rien de tout cela. Mais physiquement, moralement, spirituellement, tu passes par un moment difficile et tu laisses les choses humaines, sujet de ton esprit t'amener à d'abord ce qui est à l'intérieur, puis sort par ta bouche devant Dieu. Alors, il y a un qui se frotte les mains, il est content. Quand il t'entend confesser le négatif, il se réjouit. Mais quand il t'entend que tu confesses le positif, que tu es déterminé, alors il commence à faire marche arrière. Parce qu'il dit, celui-là, avec qui je peux pas arriver à mes fins et à mes desseins, Satan le diable rôde comme un lion rugissant de l'apôtre Pierre, cherchant qui il va dévorer. Vous savez ce qu'il fait en cherchant à dévorer? C'est pas toi qui va manger physiquement. Il va essayer dans son action de grignoter ta foi. C'est ça qu'il va faire. Parce que Satan vit dans un monde spirituel. Il va essayer de grignoter ta foi. Il va essayer de saper
ton moral sur le plan spirituel pour que tu puisses maintenant ne pas confesser le positif, mais rentrer tout doucement dans un processus de négativité et il va permettre que l'engrenage se resserre. Et plus l'engrenage se resserre, plus ta confession est en désaccord avec l'écriture. Mais plus le Saint-Esprit est actif, plus ta confession est en accord avec ce que Dieu dit. Et c'est un champ qui est particulièrement propice à la victoire, tandis que l'autre champ est propice à la défaite. Alors, dans quel champ ce matin tu veux travailler? Eh bien, moi, je t'amène à travailler dans le champ de la foi. Et quand tu travailles dans le champ de la foi, tu dis, oui, Seigneur, mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi. Alors, quand mon cœur est affermi, vous voyez bien qu'il est dit, je chanterai. Et je ferai retentir mes instruments. Quelle différence, frère et sœur en Christ, entre ce que je lis là et les lamentations de Jérémie? Mes bien-aimés, écoutez, Jésus est là. Jésus est là ce matin. Ce n'est pas la peine qu'on joue la comédie, Jésus est là. Ce n'est pas la peine qu'on essaie de paraître ce qu'on n'est pas, ils sont des cœurs. Mais lorsqu'il sonde nos cœurs et qu'il trouve en nous des choses qui lui plaisent, le sentiment qui le glorifie, la foi nécessaire, et ce, malgré des situations difficiles que nous pouvons connaître, alors il dit, toi, je vais m'occuper de ta situation. On le met à l'aise pour agir. Mon cœur est affermi, alors, puisque mon cœur est affermi, je chanterai. Je ferai résonner mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Cela veut dire, dès lors que le jour se lève, je suis déjà en train de louer mon Dieu. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuits. Alléluia. Philippe! Mon béni Dieu, frère et sœur en Christ, laissez-moi vous dire que si je me laisse aller, vous avez dit, qu'est-ce qu'il y a avec le pasteur gentil ce matin? Non, il ne m'arrive absolument rien. Mais je suis dans la présence de Jésus. Or, dans la présence de Jésus, écoutez, laissez-moi vous dire que dans la présence de Jésus, l'impossible devient possible. Ce à quoi je suis confronté n'est pas un obstacle pour empêcher la main de Dieu d'agir. Et je voudrais conclure en vous disant ceci ce matin. Il y a un monsieur qui s'appelait Saul de Tarse avant de connaître le Seigneur. Puis le Seigneur Jésus-Christ, qui avait un plan pour sa vie, d'après ce que Dieu lui voulait faire, s'est révélé à son cœur sur le chemin de Damas. Vous connaissez un peu comme moi le récit. Acte 9, acte 26. Et puis, chemin faisant dans son ministère, n'expliquera un vécu disant que, à cause de l'excellence de ses révélations qu'il avait eues, ravi au troisième ciel, des expériences merveilleuses avec Dieu, eh bien, il m'a été mis une écharpe dans ma chair. Il explique, afin que je ne puisse pas m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de m'en enlever. Trois fois. Pourtant, c'est un homme qui est exaucé de la part de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Mais le Seigneur n'a pas dit, ma grâce te suffit, débrouille-toi avec ça. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Derrière ce que Jésus lui dit, cela signifierait, frères et sœurs en Christ, en élargissant la pensée, que désormais, ce n'est même pas la peine que tu continues à prier pour cette situation-là. Pour moi, c'est déjà réglé. Ce n'est pas un obstacle à empêcher que tu sois dans ma main un instrument utile. Les choses dans la chair, c'est pas un frein pour moi. Nous ne savons pas ce qu'il en est advenu, mais je suis persuadé que jusqu'au jour de sa mort, les choses n'ont pas bougé. Et quand je vous dis « ma grâce te suffit », cela veut dire que lui sera s'occuper de tout ce qui te concerne, et ce malgré la difficulté. Mes frères et sœurs, précisément vous dire que ce matin, nous ne sommes pas sur le tasse, hein. Nous sommes enfants de Dieu. Mais là où je voulais vous amener ce matin, c'est que tous, nous pouvons avoir un défaut dans la cuirasse, ou ce qu'on appelle... Ah, un talon d'Achille. Non, vous savez pas ce que c'est qu'un talon d'Achille? Oui, Achille, il avait été trempé dans le tibre, mais celui qui l'a trempé l'a tenu par le talon. Il était invincible pour avoir été trempé dans le feu du tigre. Et toutes les manières que vous cherchez à le tuer, impossible. Mais quelqu'un a vendu la mèche, si tu lui envoies une flèche dans le talon. Le seul endroit, c'est le talon. Ben, Hector a saisi... Ça, c'est la mythologie, hein, pour ceux qui connaissent. Je ne donne pas tellement d'importance à ça, mais quand même, pour vous en montrer quelquefois, le défaut de la cuirasse, c'est là où la flèche envoyée peut pénétrer. La cuirasse est là, mais il y a un défaut dedans. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, même si je suis un enfant de Dieu, que je me crois supra-spirituel, moi, il y a des tas. Oh, je ne veux pas les exposer publiquement. Non, on a une trop haute opinion de moi. Le seul qui connaît tout ce qui me concerne, il s'appelle Jésus-Christ. Prions le Seigneur.